Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ancora a sinistro, Alex Del Piero. Riesce a guadagnare il pallone Milito. Principe Milito. Bocio è libero per il traversone pericoloso. Male. Anzi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Johan Crochet et bonjour tout le monde.
Aujourd'hui Guillaume, lendemain de tirage au sort des différentes Coupes d'Europe, les trois Coupes d'Europe, et donc on va s'intéresser à ce tirage au sort avec encore, c'est le premier point à donner mon cher Guillaume, les 7 clubs italiens qualifiés. Donc ça, c'est quand même assez rare qu'on ait un 100% après la phase de groupe, et c'est plutôt positif.
C'est vrai.
Ce qui l'est moins, c'est qu'il y a beaucoup de deuxièmes, beaucoup trop de deuxièmes de groupe, et donc on va se retrouver avec des tirages très compliqués, on va l'évoquer dans un instant. Et aussi, en Ligue Europa, on va avoir du barrage, parce qu'entre un club qui est reversé de Ligue des Champions et un qui n'a pas terminé premier de son groupe, eh ben, ça fait des petits matchs supplémentaires. Guillaume, est-ce que tu veux commencer par la Ligue Europa ou la Ligue des Champions ?
Eh ben, écoute, on va commencer par la grande sœur, comme on l'appelle, commençant par la Ligue des Champions, la Coupe aux Grandes Oreilles.
Et la Coupe Prince Charles, Coupe aux Grandes Oreilles. Guillaume, on commence par quoi ? Inter-Atlético, c'est un peu le match…
Allez.
C'est un peu la grosse affiche qui va, je pense, aboutir à un match d'une qualité… assez horrible. Enfin, en fait, je ne vois pas dans quelles circonstances on peut avoir un match ouvert entre ces deux équipes, en fait.
Bah, surtout l'Atlético, pour le coup, on le sait, qui est quand même une équipe qui est assez refermée et qui, alors, qui peut une saison, on va dire, plutôt correcte pour l'instant, alors avec des hauts et des bas. Hein. Moi, j'ai vu le match face à l'Atlético, par exemple, où ça a été très compliqué pour l'Atlético. On a un Griezmann, quand même, qui fait plutôt une très bonne saison, mais c'est vrai que ça reste l'Atlético du Cholo Simeone. Hein. Pour lui, ça va être un peu un retour à San Siro quand même, parce que l'Inter, il y a joué. Il a plutôt laissé un bon souvenir. Les tifosi l'aiment toujours. Et d'ailleurs, il y a une petite parenthèse. Tu sais, après le match, le dernier match de poule face à Lazio, Simeone avait été interrogé par Sky, où il avait dit « Non mais moi, un jour, je veux venir en Italie. » Il a dit « C'était mon objectif. » une fois je serai peu à l'Atlético, voilà, si je pouvais venir en Serie A, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Parenthèse refermée. Mais c'est un match qui s'annonce compliqué, qui s'annonce tendu, qui va se jouer sur les détails. Un match un peu hargneux, tu sais, qui va être dans les duels, dans les contacts. Alors, l'Inter, pour le coup, a quand même cette capacité à toujours trouver la faille, je trouve, dans les matchs. Tu sais, j'ai toujours l'impression avec l'Inter, et on l'a encore vu à Rome contre la Lazio dimanche, il y a plusieurs matchs dans le match avec l'Inter. Il y a le match où elle patiente, il y a le match où elle prend l'avantage, et après, il y a le match où elle gère. Et ces multiples visages, pour moi, c'est vraiment une qualité de cette équipe de Simone Inzaghi. Après, je sais que tu le sais aussi bien que moi que Simeone, c'est quelqu'un quand même qui est, entre guillemets, chiant à jouer. Ça va être un match compliqué, ça va être un match tendu. Donc, tu vois, la Gazzetta ce matin parlait plutôt d'un bon tirage. Moi, ça m'a étonné parce que, en une, mettre bon tirage pour l'Inter, l'Inter s'en sort bien. Alors oui, par rapport au Bayern, par rapport, on va dire, au Real, à City peut-être, par exemple, même si City fait pas une énorme saison, c'est toujours mieux. Après, l'Atlético, je me méfierais quand même parce que ça reste une équipe piège et ça reste une équipe qui, sur deux matchs, peut vraiment fermer la boutique à double tour et s'en sortir sur une ou deux actions. Donc, moi, je me méfie beaucoup de l'Atlético. Voilà.
Ouais, je pense que t'as raison de t'en méfier parce que en France, on voit un peu le côté oui, c'est une équipe qui joue pas, enfin en France ou en Italie, hein, c'est une équipe qui joue pas, etc. Mais on oublie que c'est surtout une équipe très difficile à bouger et qui en plus a suffisamment de qualité offensive pour te créer des problèmes. J'espère pas grand-chose en termes de qualité de jeu de ce match parce que avec un. En plus, hein, un premier match à Milan, je ne vois pas Simone Inzaghi ouvrir les vannes dans tous les sens. C'est en tout cas pas ce qu'il a démontré, notamment sur cette phase de groupe. Donc, je vois beaucoup de gestion, notamment du côté de l'Inter, parce qu'ils s'attendent à une position de l'Atlético qui devrait être celle qu'elle adopte d'habitude, hein, une position défensive restrictive. Donc, ça paraît un peu compliqué. Simone, ce qui est le petit côté rigolo, c'est que. Quand on l'annonce en Italie, on parle beaucoup de la Lazio ou de l'Inter. Et cette saison, en phase de groupe, il fait la Lazio et en huitième de finale, il fait l'Inter. Donc pour lui, c'est jackpot vraiment cette seule saison 23-24. Au terme de calendrier, c'est plutôt pas mal pour l'Inter puisque il y a un calendrier qui aurait pu être très compliqué s'ils avaient joué en premier, tu sais, parce que ça aurait été au milieu de matchs, dans une série de matchs avec Monza, Atalanta, Fiorentina, Juve, Roma. Alors que là, en jouant le 20 février, ça sera entre eux, la Salernitana et Lecce, le match aller. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, le match retour, c'est entre déplacement à Bologne et réception du Napoli. Donc ce sera un petit peu plus difficile à gérer de ce côté-là, parce qu'on sait que, et on l'a vu, hein, et d'ailleurs moi ça m'a un peu déçu, la gestion de Simone Inzaghi sur
Ouais,
cette phase de groupe. Je
t'as
comprends
raison.
le besoin de gérer, etc. Mais j'ai trouvé que sur le dernier match face à la Real Sociedad, c'était un peu trop flagrant, quoi. Vraiment, le match d'avant contre l'Udinese, et tu mets tous les titulaires, le match d'après, tu mets tous les titulaires dans une opposition qui paraît quand même plutôt à ta portée. Et contre la Sociedad, la
C'est
Real,
sûr,
pardon,
ouais.
là tu fais pas mal tourner. Bon.
Tu sais, c'est surtout le duo Thuram-Lautaro quand même qui est dur à bouger. Alors la gestion, lui, il l'expliquait clairement après la Sociedad où les journalistes italiens lui demandaient mais pourquoi ne pas aligner les deux? Parce que c'est vrai que d'ailleurs on aura quand même une opposition entre Morata-Griezmann qui est l'un des meilleurs duos d'Europe, pardon, et Thuram-Lautaro qui l'est aussi. Donc ça va être intéressant ce match un peu dans le match. Mais c'est vrai qu'en Italie on lui a reproché parce que Lautaro-Thuram ils ont été alignés une fois seulement ensemble dans cette phase de groupe. Donc il y a clairement une gestion de rotation et même Johan. Alors, pour moi, l'Inter avait clairement la capacité, même si la Sociedad est un client assez compliqué, de finir premier. Et c'est vrai que cette gestion Inzaghi, bon, on a quand même compris qu'il y avait quand même une priorité quasiment à la Serie A parce qu'il y a évidemment
Ouais.
cette deuxième étoile, ce Scudetto qui n'a jamais gagné, ce tabou un peu à enlever. Donc, on voit clairement que la priorité c'était la Serie A et que la Ligue des Champions, vu que la phase de groupe s'était plutôt bien mise. Il y a eu une gestion qui a été faite, mais tu l'as dit, dans le dernier match, c'est quand même très frustrant. Et même le supporter, d'ailleurs, il était, hein, même ceux qui étaient au stade, tu vois, il y avait une ambiance qui était quand même assez. C'était pas une ambiance de C1, c'était une ambiance un peu, quand tu vois même la compo au départ, un coup c'est Thuram, un coup c'est Lautaro, mais les deux, on le sait ensemble, voilà, ils ont des stats, ils sont rentrés dans 56% des buts en Serie A, donc ne pas les mettre ensemble sur ce dernier match, c'est même envoyer, tu sais, un signe au groupe et à ton équipe en disant, bon, la priorité, c'est pas tant ce match-là, on va finir deuxième, c'est pas grave. C'est le match d'après contre la Lazio dimanche. où là, on aura un virage compliqué à gérer et on devra gagner. Et les deux ont évidemment été alignés. Donc, c'est vrai que le début de saison Inter est, on va dire, au quasi parfait. La gestion de la phase de groupe, pour le coup, et notamment du duo devant. Alors, voilà, encore une fois, lui a justifié en disant, mais voilà, je ne peux pas toujours les faire jouer. On joue tous les 3 jours. Il faut aussi que je fasse jouer Sanchez d'un coup à Arnautovic. Voilà. Mais clairement, il y a quand même une Inter avec la fameuse Tula et une Inter sans. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait clairement la place pour aller chercher cette première place quand même qui permettait d'aborder le tirage sereinement. C'est vrai, ça aurait pu être pire quand on voyait les premiers, mais l'Atlético, voilà, ça va être un client qui, sur 2 matchs, va être vraiment, vraiment très compliqué à bouger. Il va falloir trouver la faille et la trouver assez vite. Et comme tu as dit, je pense qu'honnêtement, lors du premier match, ça va être comment dire, assez serré, assez tendu. Et je pense qu'aucune équipe, enfin, aucune des deux équipes va partir à l'abordage avant le match retour où probablement c'est là que tout va se jouer.
Par contre, je pense pas que, tu vois, sur cette double confrontation, il fera tourner son duo devant.
Ah non, ah
Enfin,
bah non.
j'ose imaginer que non. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je pense que ça peut devenir une limite aussi à l'Inter. Parce que, souviens-toi, l'année dernière, on avait 4 joueurs, on en avait surtout 3 qui tournaient beaucoup, entre Lautaro, Dzeko, Lukaku, et on avait le Coréa.
Par
Plus ou moins
intermittence.
disponible, voilà, c'est ça. Et là, je trouve qu'on a vraiment 2 joueurs majeurs et derrière, il y a un écart énorme avec les 2 autres joueurs. Et je me demande si tu veux aller loin dans les 2 compétitions, s'il ne faut pas, faut pas faire quelque chose au niveau de l'attaque, même si, a priori, ce n'est pas ce que veut faire
Non,
l'Inter
pour
ou
le
les
coup, non, non, non.
dirigeants. Et ils n'ont peut-être pas la surface financière pour le faire, mais. Ouais, je trouve qu'il y a un trop gros écart en fait entre Thuram et Lautaro et d'un côté et de l'autre Arnautovic
Et même, on le
et
voit,
Sanchez.
Johan, même tu sais, quand tu auras, par exemple, aligné avec Sanchez ou l'inverse, ou Lautaro avec Arnautovic, on sent bien quand même que même entre les deux, quand les deux sont pas ensemble, tu ramènes Lautaro, on sent quand même qu'il y a un manque de complicité, tu sais, un manque d'échange, un manque d'automatisme, et forcément, voilà, c'est vraiment, les deux, tu ramènes Lautaro, sont ensemble exceptionnels. Une fois que tu les sépares, tu sens bien qu'il y a l'un des deux, voilà, qui patine un peu plus, qui a un peu plus de mal. Donc, ouais, je suis assez d'accord sur ce constat-là et je prie pour Simone Inzaghi pour qu'aucun des deux se blesse. Parce
Ouais,
que pour l'instant,
clairement.
tout va bien et Lautaro, c'est 16 buts en 15 matchs et Thuram, c'est le meilleur passeur de la Serie A. Donc, pour l'instant, tout va bien. Faut espérer que d'ici février-mars, que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de blessures. C'est aussi pour ça qu'il est rentré dans cette phase de gestion en phase de groupe, qui lui a coûté certainement la première place.
Et je pense aussi que les milieux vont avoir un rôle fondamental dans ce jeu, notamment Barella et Mkhitaryan, dans cette capacité à se projeter, à être dans les intervalles pour essayer de, malgré un bloc resserré de l'Atlético, de trouver des espaces pour amener du danger devant le but. Il faudra aussi que Thuram participe au jeu comme il est capable de le faire, de jouer en appui remise avec ses milieux de terrain pour faciliter les projections même d'un Fratesi hein, qui peut être très utile. Les pistons, évidemment, je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup de centre et de renversement de jeu sur ce match-là. Donc on verra ce que ça va donner. Mais tactiquement, je pense que ça risque effectivement d'être assez serré. Guillaume, on passe à la Lazio qui a un tirage très compliqué.
Ouais, gros poisson.
Alors non seulement déjà le tirage est difficile face au Bayern, mais en plus, je ne sais pas si tu as jeté un œil au calendrier, mais à partir du 28 janvier, je te donne la liste des matchs. C'est Naples en championnat, Atalanta en championnat, Cagliari, Bayern. Bologne en championnat, Fiorentina en championnat, Milan en championnat, Bayern le retour.
Le
Bon,
seul match abordable, c'est donc Cagliari,
oui, c'est ça.
si je résume.
C'est exactement ça, sur une série de 2, 4, 6, 8 matchs.
Compliqué,
Bon,
surtout
ouais.
quand t'as quand même, quand t'as une équipe quand même, t'as pas non plus une profondeur de banc qui est énorme. Ouais, va falloir gérer les efforts pour Paris, mais tu l'as dit, le tirage pour le coup, on pouvait difficilement faire plus compliqué pour la Lazio. Hein. On rappelle qu'on a fait un podcast récemment sur la Lazio plus approfondi pour ceux qui veulent le rattraper. Mais c'est vrai que bon, déjà, huitième de finale, c'est déjà très bien pour la Lazio. C'était un objectif quand on a vu le, on va dire le groupe dans lequel était l'équipe de Sarri, donc c'était déjà très bien. Voilà, on peut dire clairement qu'il n'y a pas grand-chose à perdre pour le coup sur cette double confrontation. Va falloir la jouer voilà, de manière intense, de manière intelligente, de manière sensée, essayer quand même. Peut-être de, bah, tu vois, que tout soit plié avant le match, après le match aller, pardon. Voilà, histoire d'aller quand même à Munich et voilà, essayer peut-être de jouer le coup. Ça sera certainement l'une des clés de cette double confrontation. Mais sur le papier, voilà, il faudra quand même une Lazio vraiment à son prime, mais vraiment en
Ouais.
costume, trois pièces et le nœud papin.
Non, puis
Il faudra vraiment que voilà, c'est compliqué.
il y a un gros mismatch quand même, je trouve, là, parce qu'on a un Kane qui est royal, qui est très utile dans le jeu, qui marque beaucoup de buts, et on a une défense de la Lazio qui est bien moins forte que la saison passée, où c'était presque une anomalie hein, d'avoir notamment une charnière Casale et Romagnoli qui sont deux bons joueurs, mais on va pas non plus aller chercher le top du top des défenseurs italiens et qui avait fait aussi bien. Alors, c'est pas arrivé par chance, hein, c'est arrivé par le travail, et ça c'est bien, mais là, entre les blessures, un coup c'est Gila, un coup c'est Patric, un coup c'est Casale, un coup c'est Romagnoli, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de rotations cette saison dans la charnière. Sur les côtés, c'est très compliqué aussi. Marouzic, je trouve, fait une saison un peu délicate, Lazzari est moins bien. Donc finalement, face à la force offensive du Bayern, tu vas devoir gérer des monstres en fait en face. Alors tu peux toujours espérer que il y a quand même un prototype de joueur du côté du Bayern, hors Kane, où c'est un peu sur courant alternatif, les Gnabry, les Leroy Sané, Kingsley Coman. Tu te dis, il y a quasiment autant de jours où ils sont exceptionnels ou autant de jours où ils te font arracher les cheveux qui te restent sur le crâne. Mais oui, il y a gros mismatch devant. Et en plus, je ne sais pas si la Lazio a cette capacité à profiter des erreurs du Bayern, des erreurs qu'ils ont fait en championnat. Alors, la Lazio est quand même supérieure à pas mal d'équipes de Bundesliga qui ont mis la Lazio en danger. Mais le Bayern, je trouve, est très en danger quand on leur met de l'intensité et de la rapidité. Et je ne suis pas certain, sur ce qu'on voit, hein, Guillaume, depuis le début de la saison, que la Lazio a cette intensité, cette vélocité au milieu de terrain, ces joueurs capables de faire tourner le ballon comme un flipper, en fait, et de courir dans tous les sens pour mettre beaucoup d'agressivité face au duo Kimmich-Goretzka, qui parfois a du mal à gérer un peu cette agressivité et ce pressing.
Bah, c'est ce que j'allais te dire. Et en plus, si tu prends un peu les gros matchs de cette saison, j'ai pas vu une Lazio, tu vois, capable de se transcender, même sur un match ou sur une performance. Je pense au derby qui a été très triste, alors des deux côtés, hein, pas seulement à Lazio, au match contre Milan où ils avaient perdu, le match contre l'Inter, tu fais plutôt une bonne première mi-temps et finalement tu es plombé par une erreur individuelle. C'est vrai que sur un match, voilà, je n'ai pas cette sensation que la Lazio puisse vraiment avoir les armes, tu l'as dit, d'intensité, de vélocité, même physiquement, de tenir un peu le rythme, forcément imposé par le Bayern. Et il faudra aussi que les tauliers de ce groupe-là, de cette équipe aussi, soient au rendez-vous. On voit que parfois, ces temps sont aussi compliqués pour Immobilier, hein. Alors, il a su ressortir dans certains moments, notamment contre le Celtic, où il rentre et met un doublé, mais voilà, il va falloir que les Akanji qui sont plutôt en rendez-vous généralement, Luis Alberto, il faudra qu'il soit là aussi. C'est dommage, tu vois, dans ce match-là qu'il manque par exemple un Milinkovic-Savic pour contraster un peu le rendez-vous physique que va imposer le Bayern dans le redoublement des efforts, dans la gestion des temps faibles, temps forts. Voilà, il y aura beaucoup, beaucoup de choses dans cette double confrontation-là. Ce que j'espère juste, comme je disais, c'est vraiment que ce ne soit pas plié après le match aller. Ce ne sera pas évident. Et voilà, peut-être que dans un Olympico plein, avec la magie un peu de la Serbe, peut-être qu'elle arrivera à se transcender ce soir-là. Après, voilà, comme tu disais, pour le coup, l'écart et assez gros entre cette Lazio-là, parce que la Lazio, par exemple, de la saison dernière, Johan, j'aurais été plus optimiste, par exemple.
Ah oui, tout à fait.
Je te dis pas qu'elle
Sans
serait
être non
passée.
plus incroyablement
Bien sûr.
optimiste, mais l'être plus clairement, ouais.
Voilà, tu vois, là, c'est globalement, de ce que j'ai dans la presse, c'est du 80-20 ou 75-35.
Ouais, ou
La
du
saison dernière,
90-10, hein, ou du
ouais, voilà.
95-5, hein, c'est fou.
La saison dernière, tu vois, j'aurais augmenté un peu ce pourcentage-là. Là, c'est vrai que la Lazio de cette saison, voilà, je la trouve un peu trop faible voilà, pour s'opposer à ce Bayern-là. Même si, tu l'as dit, parfois, le Bayern peut faire des trous d'air. On l'a vu récemment, où ils avaient perdu au Bundesliga assez sévèrement. Donc voilà,
Bah,
c'est à prendre
j'avais
au
vu ce
sérieux,
match
mais.
contre Francfort, justement, je l'avais
Ouais,
regardé le match
Eintracht.
et c'était abusé parce qu'il y a plein de buts qui sont arrivés sur des erreurs individuelles, des passes de Kimmich, des alignements d'Upamecano, des duels perdus par Upamecano. Mais justement, ce qu'avait fait Francfort, c'est qu'ils les avaient mis sous l'eau, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient
Ils avaient
accéléré.
reculé, ouais.
Ouais, voilà, mis beaucoup de pressing, sans faire du pressing haut forcément, mais dès qu'ils touchaient le ballon, les joueurs de Francfort leur jumpaient dans les jambes, tu vois. Et ça, ils n'aiment pas trop le Bayern. S'ils ont du mal à rentrer dans le match, ils vont être en difficulté quand on va les presser et qu'on va aller jouer ce match-là sur la densité physique, en fait. Et le problème, c'est que je vois pas trop cette Lazio en capacité de le faire. En tout cas, elle l'a jamais montré et je suis même pas sûr qu'elle ait beaucoup de joueurs de ce profil-là. Donc c'est pour ça que oui, on y croit sans trop y croire du côté de ce match de la Lazio. Guillaume, on passe au Napoli,
Allez,
qui va affronter le Barça.
Napoli-Barça.
Qui va affronter quel Barça? Ça, c'est aussi une question. Si c'est le Barça actuellement, on serait, j'allais dire, optimiste, oui, quand même, parce qu'on se dit que le Napoli a des possibilités de profiter du moment assez négatif du Barça. Après, le match est dans 2 mois, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Enfin, un peu moins de 2 mois, mais.
Comment tu imagines cette double confrontation face au Barça dans 2 mois, même si tu as dit c'est compliqué de se
Bah.
projeter parce qu'il y a tellement de Barça cette saison que c'est compliqué de les
Ouais, c'est
suivre.
ça, en fait.
Mais comment tu. En Italie, pour le coup, alors pour ceux qui n'ont pas la chance de lire la presse ou autre, ou d'avoir la radio, de comprendre l'italien, pour le coup, il y a. Alors j'ai pas envie de dire de l'optimisme, mais il y a quand même, on va dire, une
Si tu
positivité
peux le dire,
ambiante sur ce match-là.
moi j'ai lu plein de trucs,
Ouais.
t'as raison, hein. T'as plein de mecs, d'éditorialistes, les fameux éditorialistes de Naples qui suivent Napoli, où ils se disent, ouais, il y a un coup à jouer, quoi,
Ah,
vraiment,
clairement,
quoi.
c'est exactement
Ouais.
ça.
Je vais simplement me baser sur, tu sais, la dernière confrontation entre les deux, c'était la première saison de Spalletti, c'était en barrage d'Europa League, si je dis pas de bêtises. J'aimerais juste. Alors, à l'époque, c'était le match retour, mais j'aimerais juste que au San Paolo, enfin au Diego Armando Maradona, pardon,
Ouais.
j'aimerais juste que ils ne fassent pas le même premier quart d'heure que la dernière fois où ils avaient pris deux buts absolument stupides. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient pris un but sur un corner à eux, sur une transition
Oui, bien sûr. Ah, je me souviens.
incroyable. Et en fait, je veux juste pas que le Napoli fasse ce type de match-là où tu te retrouves mené de 2 buts et où tu sais que c'est déjà mort. Moi, je veux juste qu'ils aillent à Barcelone au match retour en se disant on a un résultat positif après le match aller et le résultat positif peut être un match nul, par exemple. Et en se disant bah, sur 90 minutes, même si c'est au Camp Nou, bah, c'est plus le même Barça et on peut les embêter. Donc moi, j'espère vraiment ça. Sur le type de match, écoute, si on se base sur ce que faisait Mazzarri à l'époque, je pense que la configuration, elle est assez claire, Guillaume. C'est le Barça aura le ballon et le Napoli va mettre beaucoup d'applications sur les transitions. Moi, je le vois plutôt comme ça. Et d'autant plus que je trouve que, assez bizarrement, le Barça, quand il a beaucoup le ballon, a des difficultés à se créer des occasions. Il y a eu pas mal de matchs cette saison où, tu vois, ils avaient le ballon, ils se le passaient, ils se le passaient, ils se le passaient, mais il n'y avait pas de changement de rythme, il n'y avait pas de joueurs qui gagnaient d'un contre un sur les côtés, il n'y avait pas assez de mouvement dans l'axe, de joueurs qui décrochaient, qui venaient participer au jeu, ou s'ils décrochaient, ils allaient beaucoup trop bas sur le terrain. Donc, j'ai envie de dire, c'est presque la solution naturelle face à ce Barça-là, tu sais, de les attendre, pas forcément très très bas, hein, mais de les attendre. aller à 40 mètres de tes buts. Et ensuite, avec une équipe très courte, donc pas des lignes espacées. Et par contre, derrière, ils ont les joueurs, hein, Guillaume, hein, Kvara, Osimhen, sur la
Oui.
profondeur, ça peut faire mal, hein.
C'est ce que j'allais dire. Surtout, là, tu as les armes pour les punir. Si Kvara et Osimhen sont au niveau, alors tu l'as dit, d'ici 2 bons mois, il faudra voir comment sera le Barça et comment sera le Napoli aussi, hein, parce que cette saison, le Napoli, un coup c'est bien, un coup c'est moins bon. Donc voilà, il faudra aussi voir où ils sont en championnat. Alors, il y aura plein de composantes à prendre à ce moment-là, mais voilà, ils ont vraiment les armes pour les punir, parce qu'en contre, où, voilà, ça va très très vite. Et si t'es patient, si t'es prudent, si tu fais pas de bêtises, si tu fais pas d'erreur individuelle et que tu maintiens vraiment à flot ce match-là, notamment le match aller, vraiment, il y a une carte à jouer, parce que voilà, le Barça cette saison, tu l'as dit, moi ce qui me marque le plus, alors tu le sais, le Barça, on va dire génétiquement avec le ballon, c'est normalement une équipe qui sait quoi en faire, qui a toujours cette rapidité dans la pensée, dans la transmission. C'est vrai que cette saison, tu as beaucoup de difficultés dans les phases de possession. Et c'est vrai que même si tu leur laisses le ballon au Stadio Maradona, il y a clairement la possibilité de les contrer, de leur faire mal dans les transitions rapides, dans les contres. Donc, non, pour le coup, alors c'est pas évidemment pas la même confrontation, mais toi, autant à Lazio, pour moi, n'a pas les armes pour faire mal au Bayern, même si voilà, l'écart est plus grand, on va dire, sur le niveau des deux équipes. Pour le coup, le Napoli, je suis un peu plus optimiste, parce que t'as quand même les joueurs. Alors, certes, c'est plus le Napoli de Spalletti, on l'a vu en ce début de saison. Et pareil, ouais, on en a beaucoup parlé dans nos précédents podcasts voilà, sur les problèmes du Napoli de Rudi Garcia avant et un peu de Mazzarri maintenant. Mais t'as quand même une équipe qui, parfois, dans ce genre de soirée-là, dans ce genre de match, pardon, de gala, est toujours capable de ressortir un peu des bribes et de l'intensité, parce que c'est une équipe qui est intense, le Napoli, qui est capable vraiment de mettre les ingrédients dans une soirée comme ça pour faire mal au Barça. Donc pour le coup, alors je savais pas que je suis optimiste comme certains en Italie, mais pour le coup, tu vois, si je devais mettre un pourcentage, si on faisait un peu le jeu des pourcentages, bah écoute, peut-être même que je mettrais 55-45 pour le Napoli, parce que voilà, je dois t'avouer que je me sens plutôt bien. Alors, tous les Napolitains qui m'écoutent pourront me faire les gestes de superstition pour enlever le mauvais œil. Mais pour le coup, je pense vraiment que le Napoli peut faire mal à ce Barça-là. Après, le Barça de février, est-ce que ce sera celui de décembre ou celui qu'on a vu en début de saison? Ça, c'est encore une autre question.
Et petite stat pour terminer sur ce match qui peut donner du baume au cœur aussi au Napoli. Le Barça est la deuxième équipe des quatre grands championnats européens plus Ligue 1 à sous-performer le plus devant le but cette saison en championnat. Ils ont inscrit 8 buts de moins que leur valeur d'expected goals. Seul Alavés fait moins. Donc maintenant, il y a 18 équipes en France et 18 en Bundesliga. On est donc sur 36 et on est donc sur 96 équipes, si je ne me trompe pas, sur ces 5 championnats-là. Donc c'est la deuxième pire des 96 attaques en termes de concrétisation des opportunités qu'ils se créent à la fois dans le jeu et également sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est quand même une donnée à en prendre en compte. Et on espère, nous, en bons supporters des clubs italiens, que ça va continuer au moins jusqu'au match retour face au Napoli. Guillaume, on va aller faire un petit tour du côté de la Ligue Europa avec deux affiches qui sont pas si simples que ça, sincèrement. Les deux équipes italiennes auraient pu espérer un tirage un petit peu plus simple. On commence avec la Roma, qui était déjà dans cette Europa League, qui va affronter roulement de tambour. Énorme
Encore
suspense. Guillaume, Feyenoord.
le
Hein,
Feyenoord
ouais, y a
qu'est-ce
deux
que
choses certaines chaque année, mon cher Guillaume. Un, il faut payer ses impôts. Et deux, il y a Roma Feyenoord.
et 3 avec Noël le 25 décembre. Voilà,
Exactement.
c'est quand même fou. Ça fait 3 saisons de suite. Du coup, il y a eu la finale de Ligue Europa Conférence. Le match, alors
C'était un quart de finale l'année dernière.
c'était un quart de finale de Ligue Europa. Et encore une fois, là, on a les barrages. Et à chaque fois, pour le coup, la Roma s'en est sortie.
C'est ça.
Donc, jamais 203, Johan.
Bah, il faut l'espérer pour les clubs italiens, hein, clairement,
Ouais.
parce que le Cette équipe de Feyenoord reste une belle équipe avec un entraîneur que moi j'aime beaucoup et que j'aimerais voir en Italie lorsqu'il quittera Feyenoord, qui pour moi est quelqu'un de très compétent, avec des joueurs de qualité, avec un buteur de grande qualité, Santiago Jiménez, le Mexicain, qui marque beaucoup de buts dans toutes les situations et qui en plus a un caractère génial pour un entraîneur. C'est un mec qui n'a jamais rien. C'est, même quand il a marqué deux buts, il en veut plus en fait. Et même quand tu gagnes 4-0, lui, il veut, et si lui n'a pas marqué, il va tout faire pour aller marquer, il va aller faire du pressing, il va chercher à récupérer des ballons. Donc, c'est vraiment une belle équipe. Et tout à l'heure, on disait, on ne sait pas dans quel état sera telle ou telle équipe. Là, il faut espérer clairement, Guillaume, que du côté de la Roma, on sera beaucoup mieux que ce qu'on a montré ces derniers matchs, hein, parce que c'est vraiment catastrophique.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais écoute, on pourrait faire d'ailleurs un podcast sur la Roma, Johan. Hein.
Ouais, on devrait.
Tu vois, je te le dis en direct, mais on le fera. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Roma, sur Mourinho, sur la gestion, sur les déclaves. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Oui, la Roma, alors c'est sur courant alternatif, souvent dans le moins, hein, dans le négatif, c'est compliqué. T'as un entraîneur qui est toujours un peu sur la com, mon cher Johan, hein, il perd.
Je pense que tu peux enlever le un peu, Guillaume.
Il perd ce week-end à Bologne et il arrive encore à mettre au centre des attentions son avenir. En faisant sa fameuse déclat, non mais moi je veux rester. Si un jour je suis plus là, c'est que voilà, c'est pas moi qui l'aurais voulu, mais les dirigeants. Donc il arrive à faire ça. Le changement de Sanchez aussi est très voilà, très rapide. Forcément, tout le monde parle que de ça. Et c'est vrai que la défaite à Bologne finalement est passée un peu en second plan. Mais au-delà de ça, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les individualités, même Mourinho l'a dit, sans Dybala en manque de classe et sans Lukaku manque de physique, il est quand même habitué à. Bah écoute, tu me passes à l'expression, mais à déglinguer ses joueurs, hein, parce que clairement, il les allume publiquement, il leur fait pas confiance. Bon, le coup de Renato Sanchez, je suis pas certain que c'était nécessaire, même s'il s'est excusé publiquement après. Ouais.
C'est de la blague, ça.
Parce que même quand il est rentré, tu sais, j'ai revu la scène, quand il revient sur le banc, il n'y a pas un regard.
Mais
y a
bien
pas
sûr,
un
c'est
geste,
ça le truc.
Y a pas
c'est
une
pour
tape.
Ça, si, tu vois, s'il avait regretté le truc, il, je sais pas, il
bien
aurait
sûr,
pris dans ses bras, il lui aurait expliqué, mais en fait, pas du tout. C'était...
Et tu sais, même ses coéquipiers, j'ai trouvé ça fou qu'aucun coéquipier tu sais, ne vienne voir Sanchez qui était vraiment, alors forcément, au bout du rouleau, hein, parce que ah, tu rentres à la mi-temps et tu sors à la 63e, ça fait 19 minutes, c'était compliqué. Mais en fait, voilà, la Roma, c'est. En fait, c'est une équipe qui marche aussi beaucoup aux émotions nerveuses. Parfois, voilà, c'est voilà, ma chanson à Mancini qui est vraiment un joueur qui parle beaucoup sur les nerfs, on va dire. Et la Roma, c'est un peu comme ça. C'est quand il manque Dybala qui est encore blessé, Johan, jusque peut-être début janvier, mi-janvier, le temps qu'il revienne. Lukaku qui était suspendu et on voit bien que voilà, c'est une équipe qui manque d'identité de jeu, de proposition.
C'est une équipe voilà. Qui a un entraîneur qui ne mise que sur les individualités offensives. Donc, quand elles ne sont pas là, bah, tu ne sais pas quoi faire du ballon. C'est tout simple, en fait.
Regarde, le match à Bologne, c'était quand même dingue. Parce que même sans Dybala Lukaku, alors je ne dis pas que tu reposes la même chose, mais tu peux quand même proposer des choses. Hein, les autres équipes qui ont des blessés, c'est cool pas pour autant. Alors, certes, tu perds tes deux meilleurs joueurs, mais pour le coup, le match à Bologne, c'était quand même... d'une pauvreté technique et tactique très dure.
Tu vois, toutes les équipes n'ont pas un Dybala et Lukaku. Et comment ils font ? Eh ben, ils proposent du jeu, ils font des schémas collectifs, des circuits de passe, des déplacements coordonnés, des voilà tout ce qu'on ne voit pas à la Roma, en fait. Et donc, ça donne des bouillies de football comme on les voit depuis un certain temps maintenant. Et petit point quand même positif pour la Roma, c'est que le Feyenoord prend quand même pas mal de buts, je trouve, cette saison. En Ligue des Champions, 5 matchs sur 6, ils ont pris des buts. Donc ça doit quand même aussi donner des perspectives à cette équipe de la Roma parce que ils sont clairement moins bien, notamment que la saison, tu sais, où ils font finale d'Europa League, où il y avait une belle assise défensive. Là, je trouve qu'ils sont moins bien. Donc ça, c'est un espace, on va dire, dans lequel doit s'engouffrer la Roma et José Mourinho. Mais il est certain qu'on va avoir aussi une configuration qui va être assez claire, hein, Guillaume. On les a vus, les matchs contre le Feyenoord depuis deux saisons maintenant, et bah clairement tu laisses le ballon à Feyenoord et toi tu mises sur tes individualités, comme ça a toujours été le cas. Alors il y a deux ans il n'y avait pas Dybala Lukaku, mais c'était Zaniolo qui avait marqué le but de la finale sur une ouverture de Mancini. Sur le quart de finale aller, tu crées un petit peu d'occasion sur des coups de pied arrêtés notamment, et tu en concèdes finalement pas tant que ça à Feyenoord, et au match retour tu les as un peu déglingués, même si le but est arrivé tardivement. Et je crois d'ailleurs que c'était Dybala hein, qui avait... Il me semble qu'en toute fin de match, c'est Dybala qui remet la Roma dans la course, je crois, hein, sur ce...
Mais tu vois...
Je crois que c'est Dybala qui met le 1-0. Je vais chercher en même temps, Guillaume.
Ouais.
Je crois qu'il y a 0-0 jusqu'à la toute fin du match. C'est Dybala qui met le 1-0. Et après, il part en prolongation.
Comme je sais bien le faire, mais... Pour le coup, alors tu vois, tout à l'heure, on parlait un peu des armes. Pour le coup, la Roma a les armes. Pour faire mal, tu l'as dit, individuelles. Peut-être pas les armes collectives, mais en tout cas, dans ce genre de match-là, et aussi, ouais, il faudra voir aussi où sera la Roma en février. Hein. Est-ce qu'elle va tout miser sur la coupe, comme elle l'a un peu fait ces dernières années, et c'est ce qui a sauvé aussi un peu la tête de Mourinho, la réputation, parce qu'il gagne la Ligue Europa Conférence. Il va en finale la Ligue Europa, alors il la perd de peu face à Séville. Mais ça a encore sauvé un peu son bilan la saison dernière, qui était quand même compliqué, hein, au-delà de cette finale de l'Europa. La première année, c'était la même chose. Et c'est vrai que cette saison, je te dis une bêtise, mais imagine, la Roma se fait éliminer par Feyenoord et termine 6 ou 7e de Serie A. Pour le coup, là, tu auras un bilan qui sera encore plus famélique. Là, tu as quand même des gros salaires. Il faut rappeler que la Roma, Johan, c'est la troisième masse salariale de la Serie A, derrière la Juve et l'Inter. Donc, c'est pour dire à quel point il y a eu des investissements cet été. Alors, Thiago Pinto a fait un gros boulot au niveau des départs pour rentrer dans les clous du fair play financier, mais au niveau des salaires, Dybala prend un salaire conséquent, hein, c'est plus de 6 millions d'euros. Lukaku aussi, évidemment, on sait que c'est un prêt. Donc, tu as aussi une masse salariale qui, normalement, devrait justifier déjà de meilleures performances et un meilleur rendement et un meilleur rendu dans ce que tu produis, dans ce que tu donnes chaque week-end. Et pour le coup, c'est vrai que les matchs de la Roma, c'est quand même très, très difficile à regarder. Mais le fait est quand même, il faut reconnaître à Mourinho qu'à Rome, Johan, quand même, t'as comme une espèce, on en parlera plus tard dans un podcast plus spécialisé sur, plus focalisé sur la Roma. Mais en tout cas, Mourinho, pour l'instant, à Rome, reste quasiment intouchable, de ce que je
vois. Ouais,
lis,
c'est
de ce
en train un peu aussi, d'évoluer, trouves, hein. Ouais. Ouais, il y a des supporters qui commencent à regretter un peu le tout Mourinho et qui commencent à dire bon, c'est bien sympa, mais si on fait encore une saison hors top 4 avec les moyens qui sont mis à la disposition de Mourinho, il va falloir aussi se poser les bonnes questions, quoi. Sans pour autant dire qu'il n'a pas apporté quelque chose, Mourinho, parce qu'il a déjà.
Ah non, bien sûr, la mentalité, bien sûr.
Non, mais même pas la mentalité. Alors, moi, je vais te dire, je ne trouve même pas qu'il a apporté la mentalité. Tu sais pourquoi? Parce que l'histoire de la Roma des saisons récentes, tu sais, c'était perdre contre les gros, parfois aussi, tu sais, lâcher des matchs contre des petits de manière totalement incompréhensible, etc. Bah, Mourinho, moi, je me souviens du match à Cremona, je me souviens du match bah, là, à Bologne. Même en termes de mentalité, je trouve que cette équipe, elle n'a pas fondamentalement changé sur ce plan-là. Je trouve qu'elle perd toujours des matchs contre les gros. Elle a toujours des accidents stupides. Face à des
à l'extérieur, équipes,
moins
surtout,
bien classées,
surtout,
exactement
ouais,
à l'extérieur. Donc voilà. Et juste pour Roma Feyenoord, j'avais à peu près le scénario, mais pas le bon score. En fait, il y avait un partout jusqu'à la fin du match, et c'est Dybala qui avait marqué à la 89e, et la Roma ensuite. Donc ça va emmener les deux équipes en prolongation, puisque la Roma avait perdu 1-0 au match aller, et ensuite c'est en prolongation où El Shaarawy et Pellegrini avaient marqué et donc avaient battu, avaient permis à la Roma de battre Feyenoord. Guillaume,
allez, passons sur Milan-Rennes.
On termine avec l'AC Milan.
Ouais. Eh ben, écoute, Johan, en Italie, alors j'ai lu la Gazzetta avant de enregistrer ce podcast, un article assez long sur Milan-Rennes. Écoute, en fait, j'ai l'impression, tu sais, que la critique en Italie est un peu biaisée par le classement de Rennes. Alors, ils sont 13e de Ligue 1. Alors, évidemment, une saison compliquée. Il y a eu un changement d'entraîneur. Genesio est parti et Julien Stéphan est revenu. Voilà, c'est pas une bonne saison pour Rennes. Et c'est vrai que même sur Twitter, tu vois, les gens disent en général, oui, bah, si Milan commence à avoir peur de Rennes. Alors, c'est pas une question d'avoir peur. Mais c'est vrai que c'est une question quand même de se méfier. Parce qu'évidemment, sur le papier, Milan est favori. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de doutes. Mais on en parlait un peu en off. Moi, quand je vois les qualités intrinsèques de Rennes, quand je vois les joueurs qui sont arrivés, alors il y a des joueurs aussi qui sont partis comme Doku à City, mais intrinsèquement, le collectif de Rennes est plutôt bon, notamment l'attaque. Il y a quand même des bons éléments et des éléments qui sont capables de mettre en difficulté Milan et Rennes parce que cette saison, la défense du Milan, c'est une passoire. Ouais, l'équilibre est assez compliqué. Ils prennent l'eau de quasiment dans tous les sens. Pour leur défense ou pour leur coach, il y a beaucoup de blessés. T'as quasiment une charnière. Alors, on sait que des défenseurs devraient arriver en janvier, mais voilà, t'as Kjaer qui revient seulement de blessure. Kalou qui est sur le flanc. Tio est sur le flanc. Voilà, t'as beaucoup de joueurs. Théo Hernandez devait jouer dans l'axe ces derniers matchs. Donc, voilà, il y aura beaucoup de composantes aussi à prendre à ce moment-là, voir à quoi ressemblera la défense du Milan. Mais, voilà, j'ai trouvé l'optimisme ambiant un peu, tu vois, un peu trop basé sur les résultats des 4 premiers mois de Rennes. Et qui sont mauvais, là-dessus, il n'y a pas beaucoup de doutes. Mais moi, je pense que Milan aurait pu avoir un tirage plus simple dans ce barrage-là. Et je pense que, attention, attention, je ne dis pas que ça va être compliqué pour Milan, mais je dis que ça va être piège, très piège. Donc, sur cette confrontation-là, honnêtement, voilà, je pense que Milan aurait pu avoir plus simple. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Johan, mais voilà, moi, pour Milan, je reste méfiant, pour le coup.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et tu sais, le Stade Rennais, je la vois un peu comme une équipe qui est capable de. Enfin, en tout cas, c'est typiquement l'équipe qui a le jeu pour flamber un soir européen, tu vois. Plus que le jeu, à les joueurs. À des joueurs un peu feu d'artifice qui, quand ils prennent feu, bah, peuvent faire un peu une nuit magique en Coupe d'Europe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. C'est toujours la même chose. On se projette, hein, Guillaume, dans 2 mois, enfin un mois et demi, oui, non, dans 2 mois. Et y aura-t-il autant de blessés? Ça commence à devenir très, 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 très compliqué pour Milan, sincèrement. Parce que même quand tu as des joueurs qui reviennent, bah, soit ils rechutent, soit il y en a d'autres qui se blessent. Il y a des joueurs qui ne se blessaient jamais avant de rejoindre Milan et ils se blessent à Milan. Donc ça pose aussi quand même pas mal de questions autour du staff médical. Alors, il commence à y avoir des petites tensions, hein, entre les joueurs et le staff médical, ce qui est logique.
Forcément,
Euh,
hein.
c'est, c'est des blessures typiquement de séances qui sont pas assez poussées, pas assez intenses, pas assez fortes, où tu sens que les muscles ils sont mal préparés pour le match et dès que l'intensité monte dans les matchs, ça pète. Donc, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là à Milan.
Tu veux des stats, Simon, sur les blessures?
Vas-y.
Écoute, depuis le début de la saison, tu as 29 blessures à Milan. Tu en as 27 qui sont musculaires et pour 20 joueurs différents. C'est pour te dire qu'il y a vraiment un problème de fond, comme tu le disais, de préparation estivale, je pense déjà, parce que je pense que la saison a mal été travaillée. Et surtout, c'est quand même un des défauts du Milan de Pioli depuis 2, 3 saisons, vraiment chaque année. T'as quand même une hécatombe. Alors cette saison, c'est éclatant parce que c'est dans un espace de temps assez réduit. Mais Pioli a dit oui, mais on joue beaucoup trop. Ah oui, enfin bon, quand on voit les autres clubs, alors il y en a qui ont des blessés, mais quand on voit l'Inter, par exemple, qui a des joueurs même plus vieux, voilà, il n'y a pas ce problème-là. Donc Okafor, par exemple, qui rentre
Non, mais ça, c'est incroyable.
en fin de match face à Monza, qui se blesse après avoir marqué. Enfin, voilà. En plus, il y a des rechutes. C'est vraiment un problème qui, pour le coup, est vraiment en ce moment en train d'être étudié à Milan. Le président en a parlé, Giorgio Fulan, l'administrateur délégué aussi, en disant bah, on est en train de travailler dessus, on est en train de chercher là où ça va pas. La Gazzetta parlait de peut-être d'un changement de staff en fin de saison, mais à voir si ce sera le staff de Pioli ou non, s'il y aura un changement de coach. Donc clairement, il y a un problème de fond et ça peut pas durer comme ça. Donc si en février, tu arrives face à Rennes avec une défense décimée comme elle est actuellement, Ça va être compliqué. Et petit erratum, c'est 29 blessures depuis le début de la saison, Johan. 21 musculaires pour 20 joueurs différents. Donc, tu as 20 joueurs différents comme une botte. C'est quand même les chiffres. 21 blessures,
Tu sais,
incroyable.
Il y a des clubs qui ont des blessures à l'entraînement. Tu sais, des chevilles tordues, des petites entorses, ou des trucs plus graves, hein, des
C'est
croisés,
vrai,
ou
oui,
même
c'est
des
vrai,
blessures
chez Milan.
musculaires.
Ouais.
Milan, tout est en match quasiment.
C'est vrai. Ouais. Mais écoute, de tête, comme ça, honnêtement, blessure à l'entraînement.
Se
Alors,
souviens-toi à
les.
Naples, le fameux match à Naples où t'as.
Alors, t'as Pellegrino qui rentre et qui se blesse. T'as
Ouais, t'as
Kalou,
Kalulu
Luke,
qui
ouais.
doit pas jouer, qui se blesse, mais il joue parce que juste avant, c'est blessé à l'échauffement. Bah, Kier, c'est Kier qui se blesse à l'échauffement.
Ah,
Ouais,
c'est
c'est ça.
possible.
Il me
Ouais, c'est
semble
possible.
que Kier se blesse à l'échauffement. Du coup, c'est Kalulu qui joue, il se blesse, il remplace, et Pellegrino rentre, il se blesse aussi. Enfin, voilà, c'est. Alors, il y en a
Et
peut-être une
puis,
ou deux qui sont à l'entraînement, hein, mais on reprend dernièrement. Pobega, c'est en match. Okafor, c'est en match. Donc Kalulu c'était en match, Pellegrino c'était en match, qui on a
Et
eu encore
Tio, rappelle-toi, Tio en Ligue des
Tchouaméni.
Champions. Et Tio, pour le coup, c'est une blessure, pour le coup, qui plombe complètement le match face à Dortmund, où Milan était plutôt bien rentré en deuxième mi-temps. Il y a un partout, il pousse pour marquer. Et c'est là que tu vois même les coéquipiers, Johan, tu sais qu'il avait les mains sur la tête, mais c'est pas possible. Et forcément, après, tu joues avec la peur, tu joues avec la crainte, tu te dis, si t'arrives à lui, ça peut arriver à moi. Et forcément, après, les mêmes joueurs qui jouent, t'as pas beaucoup de rotation. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'est installé. Et on a l'impression qu'à chaque fois, Milan dit, bah, on va s'en sortir. Et tu vois, bah, dimanche, tu gagnes 3-0, mais tu perds deux joueurs. Et puis en plus, c'est des blessures assez compliquées, hein, parce que Pobega, on parle de 2 mois et demi. Okafor, on parle d'un mois et demi, 2 mois. Donc, c'est vraiment pour le coup, pour moi, la saison du Milan est plombée. Alors, on pourra parler en fin de saison, faire un bilan un peu sur Pioli et sur certains choix. Mais la saison du Milan, on l'a vu, hein, sur les 10 premiers matchs, Johan, je crois que c'est 8 victoires, quand tu avais l'équipe au complet. Et une fois que ça commence à, on va dire, à exploser dans tous les secteurs, et ben, t'as une équipe qui baisse de rendement, qui patine et qui perd le contact avec l'Inter en Serie A. Donc, voilà, c'est pour l'instant, la saison du Milan est complètement plombée par des blessures. Et c'est certain que ce match à Rennes, si tu le gères mal ou si tu arrives décimé, ça pourrait être un match de piège parce que moi je pense à des joueurs comme Gouiri, Johan, qui pourraient faire mal, des Terrier, Ludovic Blas, Truffert. Au milieu de terrain, tu as quand même l'expérimenté Matic, qui a un très bon souvenir à Rome, Johan, de son
Ironiquement, bien
départ.
sûr.
Et ironiquement, bien sûr, Enzo Lefebvre, enfin tu vois, tu as quand même de la qualité.
Bien sûr.
Tu as des joueurs, tu le disais, qui peuvent s'illuminer. Un soir comme ça où tu es un peu dos au mur et que tu n'as pas beaucoup de pression parce que tu sais que c'est Milan et que c'est eux les favoris. Donc voilà, moi j'ai trouvé la presse beaucoup trop optimiste pour le match piège que ça pourrait être pour Milan.
Et alors, juste pour terminer, on ne l'a pas précisé, mais la Roma, avant son déplacement à Feyenoord, qui sera la match aller, a un choc face à l'Inter, 3 jours avant. Alors, le match sera peut-être avancé, hein. Je pense même que la Ligue va faire en sorte que ça soit avancé. Et de son côté, le Milan, juste avant d'aller jouer contre Rennes, a un choc contre le Napoli. Donc,
À
ça
San
compte
Siro.
aussi.
Ouais.
Ouais, à San Siro.
Ouais.
Donc ça compte aussi dans la préparation des matchs, dans tout ce qu'on dit, etc. Jouer un choc de championnat où tous les points comptent, surtout quand tu es dans la situation de la Roma ou du Milan, ça peut jouer un petit peu aussi sur le match 4 jours plus tard en Ligue Europa. Voilà, Guillaume, on a fait le tour. On a exempté de ce podcast l'Atalanta qui a terminé de manière brillante, vraiment. Première de son groupe en Europa League, et vraiment de manière brillante, hein, un groupe pas si facile que ça, pour le coup. Et la Fiorentina, qui a terminé aussi première de son groupe
C'est
en
vrai,
Conference League, dans un groupe qui n'était aussi pas si facile que ça, même si on peut toujours discuter de la valeur de Ferencvaros, qui est maintenant entraîné quand même par Stankovic, et ils avaient, je sais plus quel petit club aussi, également, je l'ai plus en tête, Kouraki, je crois. Donc, ces deux clubs-là, eux, n'auront pas de barrage à faire. On aura donc 5 matchs, là, très rapidement, à la mi-février, mi-fin février. Il faudra regarder attentivement ce qui va se passer. Parce qu'on le rappelle, Guillaume, il y a un élément très important à prendre en compte. Si l'Italie termine dans les deux premiers pays avec le meilleur coefficient UEFA à la fin de la saison, ce qui est le cas actuellement, avant
Oui.
cette phase à élimination directe, eh bien, l'Italie aura un cinquième club qualifié directement en Ligue des Champions. Et ça,
ouais,
ça pourrait faire un énorme bien, je ne dis pas sportif, mais surtout financier pour pas mal de clubs qui adoreraient accrocher une place en Ligue des Champions en étant cinquième.
Ah ouais, puis ça serait quand même très bien. Ce serait une très bonne nouvelle pour le championnat. Et non, il faudrait continuer comme ça, tu l'as dit. Pour l'instant, l'Italie est deuxième. Donc,
et première même, première.
Et première, ah oui, et première, exactement.
Ouais, et première après les matchs du jeudi, ouais.
Exactement, elle est première, elle est passée devant la dernière journée.
Très, très peu de choses, hein. Très, très peu
oui,
de choses.
Oui, non, mais t'as raison, moi j'avais sous les yeux celui de la cinquième journée, non, la sixième journée, c'est vrai qu'il était les premières. Donc on est plutôt bien placé, donc faut conserver ce trend-là, espérer que tous les clubs italiens peuvent passer, pour le coup, parce qu'ils ont tous les moyens. Alors la Lazio peut-être un peu moins,
Ouais.
mais pour le coup, les autres, il y a clairement moyen d'aller plus loin, donc voilà, faut croiser les doigts. Et tu vois, Johan, on parlait un peu du rendement championnat, je pense aussi que l'Inter va peut-être cravacher d'ici février pour avoir encore un peu plus d'avance sur le deuxième et sur les poursuivants pour le Scudetto. Et pour l'instant, c'est une espèce de rouleau compresseur qui marche sur tout le monde. Donc voilà, je pense que le but de l'Inter qui pour le coup, alors je dis pas élu des favoris anciens, mais l'une, on pourrait dire un outsider quand même, parce qu'on parle quand même du dernier finaliste. Donc on peut espérer des belles choses pour l'Inter. Donc voilà, il y a quand même cette association Serie A Ligue des Champions qui est toujours à prendre en compte quand tu vas jouer en Europe. Donc voilà, on espère que les cinq, enfin que toutes nos équipes vont passer. Et moi, Yoann, j'aimerais bien que nos auditeurs, s'ils sont joueurs, nous disent les clubs italiens qui vont passer entre l'AC1, l'AC3. Alors là, c'est 4, il y a la Fiorentina, mais elle est déjà qualifiée, mais je veux que nos auditeurs se mouillent et nous disent sur Twitter ou en commentaire où ils le souhaitent, voilà, leurs pronostics sur ces matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa.
Eh bien, écoute, Guillaume, ils pourront nous le dire sur le Twitter de Calcio et Pépé notamment. On en profite pour remercier Guillaume, les nouveaux. On va les appeler les nouvelles 5 étoiles du
Les
podcast Calcio
étoilés.
et Pépé. Les étoilés. On remercie Geka048. On remercie Kaipi51. KIP51, ça fait deux références, c'est pas de la Volvic, hein, mais bon, on dira rien. Alors, une autre personne, je ne sais absolument pas comment prononcer son pseudo, donc on va dire merci à SONVEGE qui nous a mis un joli commentaire et un beau 4 étoiles, et à Atsaprimo, je ne sais plus si je l'avais dit lors du podcast précédent. Donc, merci à vous pour les 5 étoiles sur Apple Podcast. On ne peut pas remercier individuellement ceux qui nous mettent 5 étoiles sur Spotify. Il y en a eu encore beaucoup, donc on vous remercie, mais les pseudos n'apparaissent pas. Mais en tout cas, on vous remercie. Continuez
Continuer.
à le faire,
Voilà.
exactement, Guillaume. Avec Guillaume, ça prend 5 secondes.
Et puis c'est Noël en plus. C'est Noël, quand
Exactement.
même. J'en profite pour souhaiter bonnes fêtes à tout le monde. Johan, des bonnes fêtes en famille avec
Exactement.
le Pandoro, Johan.
Ah, ça y est, ça y est.
Voilà.
Il recommence, il recommence.
Avec le Pandoro. Et d'ailleurs,
Alors que le
n'oubliez
peuple
pas.
a tranché à la fois sur Instagram et sur Twitter pour le Panettone. Mais
Je
bon.
te soupçonne d'avoir biaisé le sondage, mais. Deux choses, bonne fête déjà à tout le monde en famille, en couple, voilà, profitez bien des fêtes et régalez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir les cases du calendrier de l'Avent, Calcio et
Exactement.
Pépé, Johan,
Ouais.
jusqu'au 24 décembre, au
Oui,
25
c'est
même.
ça, 24, la dernière case
24.
du calendrier de l'Avent, le 24. Ça sera une très grosse case. Le montage est quasiment fini. Donc, ça va être une très grosse case ce 24 et j'espère qu'elle vous plaira. C'est quelque chose d'un petit peu original.
Très grosse surprise. Ouais, très très
Exactement.
grosse surprise.
Exactement. Donc, d'ici là, eh bien, écoutez, continuez à suivre cette Serie A qui ne s'arrête pas pendant les fêtes puisqu'il y aura une journée le 29-30 décembre. On est tous absolument ravis de cette journée placée entre Noël et le jour de l'an, mais c'est comme ça, et on le débriefera chacun à notre manière, mon cher Guillaume. Et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé. Bonne fête à tous et à toutes, et à très vite. Ciao, ciao.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.